Père Seigneur, c'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur, qu'on est rassemblés ce matin. Puis notre cœur est ouvert, Seigneur, pour tout ce que tu veux nous révéler. Puis merci pour ta parole. Il y a tellement de belles affaires décrites dans ta parole qui nous encourage, qui nous fortifie, qui nous fait du bien. Parle à nos cœurs ce matin. Inspire-nous, que ton Saint-Esprit prenne le contrôle de notre intelligence et de nos pensées pour ramener nos cœurs et nos pensées en toi ce matin, sans distraction. On remet ça entre tes mains dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, c'est une suite de la dernière fois que j'ai prêché sur l'autorité du Christ. Puis je parle encore sur l'autorité aujourd'hui. La dernière prédication, c'était sur les armes et la puissance de Dieu à notre disposition. On a vu comment est-ce que le Christ a été élevé par Dieu son Père, puis c'est son Père qui l'a établi dans ce poste d'autorité-là. Puis il est au-dessus de tout ce qui peut se nommer comme nom ou autorité spirituel dans les lieux célestes et dans ce monde. Jésus est le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour résumer ça, là, dans Philippiens 2:9, ça nous dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, puis lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Jésus est le nom au-dessus de tout nom, qui est dans les cieux, sur la terre et sous la terre, puis toute langue va finir par confesser que Jésus est le Seigneur. Ça, c'est extraordinaire, c'est une révélation, ça, quand on saisit ça. Nous sommes avec le Créateur. Nous sommes avec celui qui règne sur tout l'univers, dans le monde invisible comme dans le monde visible. Ce qu'on doit comprendre maintenant, frères et sœurs, chacun de nous, quel impact que ça a pour chacun de nous aujourd'hui, l'autorité du Christ. Qu'est-ce que l'autorité du Christ peut faire dans nos vies? Il faut réaliser, frères et sœurs, notre nouvelle identité qu'on a en Jésus-Christ. Avant, là, faut pas considérer d'où ce qu'on devient. On peut le regarder, oui, j'étais qu'un bum, un trimpe, un gars qui faisait des mauvais coups, je prenais de la drogue, on se voit. Souvent, on reste accroché avec notre ancienne idée. Mais on n'est plus cela. Nous sommes morts. Daniel Poulain, l'ancien Daniel Poulain, il est mort. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, le Seigneur m'a pris de la boîte. Puis là, maintenant, je suis un fils de Dieu. Je suis le fils du Dieu créateur de toutes choses qui a toute autorité. On va voir les changements que ça fait dans notre vie. Quelque chose, quelques points qu'on va voir, là, c'est extraordinaire, frères et sœurs. Si on peut réaliser notre position, après ça, quand on rouvre la bouche pour parler de Jésus, si on peut croire qui nous sommes et quand on rouvre la bouche pour parler de la parole, elle va faire son effet. D'où est-ce que ça a commencé que les disciples de Jésus ont commencé à avoir l'autorité? Ils sont pas venus au monde avec ça, là. Les disciples de Jésus, ils chassaient des démons puis guérissaient des malades. Ils sont pas venus au monde comme ça. Une journée bien précise, Jésus a choisi ses 12 apôtres. Puis Jésus a pris de l'autorité qui était sur lui et il l'a donné à ses 12. Parce que Jésus avait reçu l'onction pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour proclamer la parole à ceux qui sont captifs, des délivrés. Il y avait une onction pour pouvoir changer la vie des gens. Il y avait cette autorité de le faire. Il y avait juste à le proclamer, puis ça se faisait. Mais les disciples, eux autres, ils ont été choisis par Jésus. Jésus les a choisis. Il a pris de son autorité. Il l'a mis sur eux. Puis là, il les a envoyés avec cette autorité-là. C'est ce qu'on voit dans Luc 9, 1. Jésus assembla les 12. Il leur donna la force et le pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Là, je vous pose la question, d'où venait l'autorité des premiers disciples? De l'Esprit-Saint, mais particulièrement parce que Jésus venait de leur donner. Il dit, il les a rassemblés, puis il leur donna la force. Jésus lui-même leur donna la force. Il ne l'avait pas 5 minutes avant. À partir du moment qu'il les a choisis, là, il leur a sûrement imposé les mains, puis il dit là, vous avez la force et le pouvoir sur tous les démons. Puis cette force-là qui va vous accompagner, elle vient de moi. C'est ça que Jésus veut nous faire comprendre dans ce passage-là. Je vous envoie, puis là, allez, guérissez les malades, chassez les démons. Les disciples sont partis, ils ont commencé à prendre cette autorité-là qu'ils venaient de recevoir de Jésus. Puis là, ils ont commencé à chasser des démons, puis à guérir des personnes. Les 70 aussi, parce que là, tout de suite après ça, Jésus a désigné 70 autres disciples qui a envoyé dans aller porter la parole de Dieu. Les 70 disciples ont aussi été envoyés avec l'autorité puis le pouvoir. Vous allez voir dans Luc 10, 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où il devait aller. Fait que c'est encore suite au commandement du Seigneur qui lui dit « Allez ». Il les a choisis. Après ça, il lui dit « Allez ». Ils sont partis. Ils ont commencé à répandre la bonne nouvelle. Qu'est-ce qui s'est produit avec ces disciples-là? Ah, est-ce qu'ils ont vécu la même chose que les 12 apôtres? Oui. Oui. Les 70, ils ont vécu les mêmes choses que les 12 apôtres. Luc 10, 17. C'est là qu'on commence à rentrer dans l'idée, quand Jésus remet l'autorité à quelqu'un, les personnes qui l'ont reçu, il faut qu'ils croient qu'ils l'ont reçu, puis qu'ils partent avec ce qu'ils ont reçu, puis qu'ils accomplissent ce qu'ils ont à faire avec ce qu'ils ont reçu, puis il se produit quelque chose. Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » C'est Jésus qui parle. « Cependant, ne vous réjouissez pas que les esprits vous sont soumis. » Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Ce qu'on doit comprendre, frères et sœurs, Jésus a envoyé les 12 avec cette autorité-là et cette puissance. Les 12 sont partis, ils ont commencé à prendre le nom de Jésus, à utiliser le nom qui est au-dessus de tout nom. Qu'est-ce qui s'est produit? Des signes, des prodiges, des miracles, des démons qui sortent, des guérisons, des personnes qui ont été ressuscitées. La puissance de Dieu était à l'œuvre parce que les 12 croyaient. Les 70 ont reçu la même ordre du Seigneur qui les a envoyés, puis il dit « Allez ». Puis là, ils sont partis avec l'onction qui était sur eux, puis il s'est produit la même chose parce que quand tu es envoyé par Jésus, puis que tu utilises son nom, il se passe quelque chose. Il y a des signes, des prodiges et des miracles. Si je vous pose la question à chacun d'entre vous, avez-vous déjà vu un miracle dans votre vie qui a été fait à cause que il y a quelqu'un ou vous avez prié dans le nom de Jésus? Je suis sûr que vous n'avez toutes des témoignages. C'est puissant le nom de Jésus. Quand la personne croit en son autorité, que dans son nom on peut recevoir des guérisons. Il dit, en mon nom, ils chasseront les démons, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus-Christ. L'important, c'est de faire comme si les 12 et les 70. Faut croire à notre nouvelle position qu'on a en Jésus. Il est là le problème, frères et sœurs. Quand on oublie qui nous sommes, puis là on se voit avec nos yeux charnels, puis on pense qu'on est encore pas mieux qu'avant, On ne pense plus à notre nouvelle position. J'ai été adopté par Dieu. Je suis maintenant dans la famille de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. J'ai même été envoyé par le Christ pour travailler dans l'œuvre du Christ. Puis le Seigneur m'accompagne tous les jours. Puis le Seigneur a promis qu'il se produirait telle et telle chose. Quand tu y crois, là, tu commences à prier avec la foi. Puis c'est là qu'en confessant le nom de Jésus, c'est là que ça se produit. Les signes, les prodiges, les miracles. Jacques, il dit, si tu pries, puis tu doutes, il dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Faut pas que tu doutes de ta position en Jésus. C'est pas parce que tu es meilleur que les autres que ça marche. C'est à cause que tu es un enfant de Dieu, puis que c'est le nom de Jésus qui a été invoqué. C'est à cause de ça, cela marche. C'est le nom de Jésus qui a l'autorité suprême. Puis aujourd'hui, vous pouvez, vous aussi, expérimenter les mêmes choses en autant, on va voir les critères de base, comment est-ce qu'après Jésus soit ressuscité, comment est-ce que les disciples ont reçu l'autorité du Seigneur. Là, on a vu que c'est Jésus qui l'avait donné aux 12, puis Jésus l'a donné aux 70. Ça, c'était avant que Jésus meure sur la croix. Le sacrifice n'avait pas été accompli pour tout le monde. Là, les gens, les premiers, ont été envoyés dans l'autorité que Jésus leur donnait. Mais après que Jésus ait payé pour la dette des péchés, qu'il a remporté la victoire contre la puissance des ténèbres, qu'il a dépouillé la puissance des ténèbres, il a enlevé les armes que la puissance des ténèbres utilisait, puis il a aussi établi que le péché y est expié pour donner accès à n'importe qui voudrait croire pour être sauvé, pour recevoir tout ce que Dieu a lui donné. Une fois que tout est accompli, l'autorité du Seigneur vient premièrement à cause de notre nouvelle position en Jésus. Là, faut comprendre que là, après la mort et la résurrection du Seigneur, quand les disciples ils ont appelé les gens, « Repentez-vous et vous recevrez le Saint-Esprit. » La promesse est pour vous, pour vos enfants, puis en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Fait que là, les gens couraient vers les apôtres, ils demandaient pardon, ils se faisaient prier pour eux, ils recevaient le Saint-Esprit, puis ils devenaient, eux aussi, ils devenaient enfants de Dieu. C'est ce que la Bible a dit. La première chose qu'une personne doit faire, c'est d'expérimenter la nouvelle naissance. Faut que tu reçoives l'Esprit Saint. Parce que Jésus l'a dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Tu peux pas le voir. Faut que tu naisses de nouveau. Naître de nouveau, ça veut dire qu'on est déjà né une fois, n'est-ce pas? Si vous êtes là, c'est parce que vous êtes déjà né une fois. Vous êtes venu au monde, dans ce monde, par l'entremise de vos parents, puis votre mère vous a mis au monde. Vous êtes né une fois, vous êtes sorti de l'eau. Puis vous êtes né une fois, vous avez besoin de naître une deuxième fois. Cette nouvelle naissance-là, c'est une naissance spirituelle, c'est l'Esprit de Dieu qui va venir. C'est pour ça que Jésus dit tout de suite après, faut qu'un homme naisse d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Était où notre première naissance d'eau? On l'a toute vécue, on est venu au monde de l'eau. De notre mère, on est sorti du ventre de notre mère. Ça, c'est la première naissance. La deuxième, c'est de naître de l'Esprit. Faut qu'une personne naisse du Saint-Esprit qui vient en toi. C'est là que tu deviens une nouvelle créature. C'est là que tu deviens enfant de Dieu. Ça nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, ça a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous êtes maintenant des enfants de Dieu. Si vous avez reçu le Saint-Esprit, ça paraît. Votre vie a commencé à changer. Notre sœur témoignait tantôt qu'elle a reçu, depuis qu'elle a accepté Jésus, sa vie a changé. C'est extraordinaire. Puis c'est de Dieu tout cela. Puis c'est Dieu qui fait cela. C'est le Saint-Esprit qui est entré en elle, qui commence à changer sa vie. Elle commence à porter du fruit pour Dieu. Puis Dieu y est fier. Puis c'est un enfant de Dieu. Puis chacun de nous qui avons passé par cette nouvelle naissance, notre vie a commencé à changer. Ça paraît quand quelqu'un est chrétien. Son cœur change, ses intérêts changent. Il veut suivre le Seigneur. Il aime le Seigneur. Il s'accroche à la parole de Dieu. Puis il prie, puis on cherche, on en veut plus, mais on n'a jamais assez. Un bébé là qui vient au monde, ça paraît qu'il est au monde. Quand il veut son lait, qu'est-ce qu'il fait? Il braille assez que là, tu peux pas y en donner, sinon ça n'arrête pas. Il en veut. Il est vivant, il en veut. La journée qu'il arrêtera de brailler, c'est parce qu'il est mort. Puis Dieu veut pas qu'on meure spirituellement, il veut qu'on soit des enfants nouveau-nés qui désirent le lait spirituel et pur. Comme des enfants nouveau-nés. Seigneur, on en veut plus. C'est là que c'est un signe que tu es vivant. Si t'es rendu sèche puis t'as plus le goût, t'es peut-être mort spirituellement. T'as besoin d'être renouvelé dans la présence de Dieu. La même chose que l'enfant prodigue, il était mort, mais il est revenu à la vie. Il était perdu, il est sauvé. Dieu nous rouvre les bras tant que j'avais pas franchi la voie de non-retour. Mais quand tu reçois le Saint-Esprit, t'es rendu un enfant de Dieu, t'es devenu un enfant de Dieu. Tu reçois cette nouvelle position en Jésus. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de Dieu, mais c'est pas tout le monde qui a reçu le Saint-Esprit par la nouvelle naissance. Puis dans la parole, dans Romains 8, 9, ça nous dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il est important, frères et sœurs, qu'on se sonde nous-mêmes pour voir si vraiment l'Esprit de Dieu est en nous. Paul l'a demandé à des gens, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous êtes convertis? » Il dit, « On n'a même pas entendu parler qu'il y avait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême vous avez été baptisés? » Il dit, « Du baptême de Jean. » « Ah, Jean est venu pour vous amener à repentance, puis là, il les a rebaptisés dans le nom de Jésus. Il a prié pour eux, puis ils ont reçu le Saint-Esprit. » Il est important qu'on remarque si on a encore des signes qu'on est en vie, que le Saint-Esprit est encore là, pour pouvoir être sûr qu'on fait partie de cette nouvelle création, puis d'avoir tous les avantages qui sont dans cette nouvelle création. C'est dans le Saint-Esprit. Pour comprendre notre nouvelle position en Jésus, on doit comprendre quelle est la position actuelle de Jésus. Dans Colossiens 2,15, ça nous dit, il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il faut comprendre qu'il y avait déjà des autorités qui étaient en place avant que Jésus meure. Ces autorités-là, c'était le diable qui menait le monde, puis le diable était même assis devant la présence de Dieu. Mais quand Jésus-Christ les a vaincus, Jésus les a dépouillés, puis ils ont été balancés sur la terre. Quand Jésus était sur le bord de mourir, il dit, le prince de ce monde sera jeté dehors. Puis il a été jeté dehors à partir du moment que le Christ a pris le contrôle, en mourant sur la croix pour prendre le péché de tout le monde. Le diable n'avait plus de droit juridique de régner sur l'humanité, parce que le péché s'est réglé. Le diable, il n'a plus rien pour s'attacher après le monde, pour les contrôler. Il continue à contrôler seulement ceux qui veulent être contrôlés par le diable. Parce que si tu veux sortir de son emprise, Jésus-Christ t'offre la possibilité de pouvoir être libéré de toute l'emprise du diable. Il a toute la puissance et l'autorité pour délivrer quiconque vient à lui. Maintenant, en Jésus, tu peux être délivré de tout ce que tu étais captif avant. Jésus, il est rendu dans l'autorité à cause qu'il a dépouillé les puissances des ténèbres. Dans Éphésiens 1,20, ça nous dit, Dieu il a déployé sa puissance en Christ en le ressuscitant d'entre les morts, puis il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination et de toute autorité. Jésus est assis au-dessus de toute autorité qui existait avant. Puis au-dessus de toute puissance, puis de toute dignité, puis de tout nom qu'on peut donner. Jésus est au-dessus de tout, puis non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Dieu, il a tout mis sous ses pieds, puis il l'a donné, Jésus, comme étant le chef suprême de l'Église. Que l'Église est quoi? Qui est son corps. C'est là qu'on va commencer à comprendre notre nouvelle position en Jésus-Christ. Quand tu es né de nouveau, tu es rendu un enfant de Dieu. Tu es maintenant l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Tu es maintenant son corps. C'est ça qui est extraordinaire. Dans notre nouvelle position, c'est comme si je suis un membre du corps de Christ. Christ, là, maintenant, Il est au-dessus de toute autorité, puis maintenant, je suis son corps. Vous êtes une partie de son corps. Le Christ est en chacun de nous, puis ça nous a donné d'autres avantages. Ça, c'est écrit dans Éphésiens 1:20, ce que je viens de vous lire. Éphésiens 2, le verset 4, ça nous dit que Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour qu'il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, puis il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia! Ça, c'est extraordinaire. Je venais de vous dire que Dieu le Père a pris Jésus puis il l'a mis dans le nom au-dessus de tous les noms. Il est au-dessus de toute autorité. Jésus est au-dessus de toute autorité, tout pouvoir, toute domination, tous les noms importants qu'on ne peut entendre dans l'histoire du monde terrestre et dans l'histoire du monde invisible. Yeshua, Yamashia, son vrai nom, c'est un nom araméen, Yeshua, qui veut dire Jésus, traduit en français par Jésus, Yeshua, Yamashia, le Messie, c'est Jésus-Christ en français. C'est lui qui est le nom au-dessus de tout nom. Puis maintenant, dans son amour, Dieu, il nous a sauvés, il nous a pardonnés, il nous a ressuscités. Nous sommes déjà des êtres ressuscités, puis nous sommes maintenant assis dans le nom. À la droite de Dieu, nous sommes assis dans le nom qui est au-dessus de tout nom. Nous sommes maintenant le corps de Jésus sur la terre. Nous sommes un avec Jésus présentement. Puis Jésus est assis à la droite de Dieu. Nous sommes assis dans la même autorité que Jésus. C'est ça qu'il faut comprendre, frères et sœurs, puis pas juste le comprendre, il faut y croire. Parce que si on ne croit pas cela, on peut pas vivre à chaque jour dans une fermeté intérieure, là, de dire, je sais que je suis un enfant de Dieu, puis quand j'ouvre la bouche pour proclamer la parole de Dieu, la parole de Dieu sortira pas de ma bouche sans avoir fait un effet. Comme c'est écrit dans la Bible, que la parole de Dieu ne sort pas de notre bouche avant, elle ne retourne pas à Dieu sans avoir fait son effet. Il faut croire notre position en Jésus. Si on n'y croit pas, on manque des occasions de voir la puissance de Dieu. Il faut réaliser que nous sommes sauvés, nous sommes des êtres ressuscités, nous sommes déjà assis en Jésus dans le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est extraordinaire. Il n'y a rien, il n'y a aucun autre personnage sur la terre que même si on dira, le roi Nébuchadnezzar, qui était le roi de Babylone, régnait sur toute la terre. C'est rien. Le plus petit des enfants de Dieu de la planète, là, qui a jamais existé, il est plus grand que Nébuchadnezzar, roi de Babylone. Parce que le plus petit du royaume, c'est un fils de Dieu. Puis quand tu es fils d'un roi, tu as les avantages du roi. Quand tu sors dehors, le monde se prosterne. Quand Jésus marcha sur la terre, les démons se prosternaient devant Jésus. Puis un enfant de Dieu peut vivre la même chose s'il est rempli du Saint-Esprit, puis il croit qu'est-ce qu'il est, puis qu'est-ce qu'il a à faire dans ce monde, puis il croit en l'autorité qu'il a. Tu sais, quand le personnage, le Romain, est allé voir Jésus, « Seigneur, aie pitié de mon fils. » Mais je suis pas digne que tu rentres sous mon toit. Dis seulement une parole. Il dit, « Moi, je suis un commandant, je dis des ordres à mes serviteurs. Fais cela. » Puis il le fait. Puis il dit à Jésus, « Tu as juste besoin de le dire, puis ça va se faire. » Jésus dit, « J'ai jamais trouvé une aussi grande foi. » Mais ça, là, cette foi-là, c'est la foi qu'on devrait avoir. Qu'on se dit, « Moi, je suis un enfant de Dieu, j'ai juste besoin de confesser la parole de Dieu, puis je vais voir la puissance de Dieu à l'œuvre, à cause de ce que je suis. » Si on croit notre position en Jésus-Christ, sans l'oublier, parce que demain, il faut que je m'entretienne encore à penser, « Je suis un enfant de Dieu, je suis assis dans les lieux célestes, dans le nom au-dessus de tout nom. » On ne laisse plus le diable essayer de nous voler nos promesses. Elles sont pour moi, puis je les garde pour moi, puis j'avance par la foi dans ce que Dieu m'a donné, dans ce que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. Maintenant, nous sommes dans cette autorité parce que nous sommes en Jésus. Dans Colossiens 2:10, ça dit, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Jésus est le chef de toute domination et de toute autorité. Puis Paul, il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, puis les esprits méchants. Puis Jésus est le chef même de tous les démons. Il y a un nom au-dessus de tout cela, puis on est assis, nous avons tout pleinement en Jésus, nous avons tout pleinement ce que Jésus a reçu. Amen.
Amen.
Croyez-les, frères et sœurs, ce que je vous dis, parce qu'après ça, vous allez voir quelqu'un qui est pris d'un mauvais esprit, puis vous allez pouvoir dire, au nom de Jésus, je t'ordonne de t'en aller, si tu le crois, il va sortir. On l'a vécu, puis on va le revivre. C'est l'autorité du nom de Jésus-Christ qu'on utilise. Nous sommes en lui, dans son nom. L'autre raison pourquoi qu'on a l'autorité, là, la première raison, c'est qu'on est né de nouveau, on est enfant de Dieu, fait que le Saint-Esprit est en nous, on a cette autorité-là. La deuxième raison pourquoi qu'on marche dans cette autorité-là, c'est parce que notre autorité vient d'un ordre qu'on a reçu par Jésus. Comme les 12 apôtres, puis comme les 70. C'est un ordre qu'ils ont reçu, puis j'ai dit, je vous donne ça, allez. Qu'est-ce que Jésus nous dit à nous, dans Marc 16, 15? Il dit, allez par tout le monde, puis prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Puis ce verset-là est encore en cours aujourd'hui, 2000 ans plus tard. C'est encore en train de se faire. Et celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Ça, c'est un ordre du Seigneur, ça. C'est une déclaration du Seigneur. Si tu nais de nouveau, tu es engagé à suivre Jésus-Christ, tu es pardonné, tu es sauvé. Autant que celui qui ne croira pas sera condamné. C'est tranchant, la parole de Dieu. Le jugement est déjà donné. Celui qui ne croit pas en Jésus, il meurt dans ses péchés, puis il ne pourra pas aller où ce que Jésus est. Puis il est privé de la gloire de Dieu. Tandis que si tu vas à Jésus-Christ, tu n'es pas privé de la gloire de Dieu, tu l'étais avant, mais là, tu obtiens la gloire de Dieu. Tu peux vivre la gloire de Dieu, l'expérimenter. Tu peux recevoir. Toutes ces promesses sont pour nous. Amen. Alléluia. Là, Jésus nous continue à nous dire, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, puis les malades seront guéris. C'est Dieu qui parle, là. C'est Jésus qui parle, c'est sa parole qui est là. Est-ce qu'on a des doutes sur ce que Jésus dit? Même les démons n'ont pas de doute sur ce que Jésus dit. Parce que quand Jésus lui dit « sors », mais les démons sortent. Parce qu'ils veulent pas niaiser avec Jésus. Ils savent qu'est-ce qui est Jésus. Dans quelle autorité, dans quelle puissance.
Matthieu dit, hein? Matthieu également dit, « toute autorité m'a été donnée dans la
suite. » Oui. 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 Jésus l'a reçu, puis a envoyé ses disciples avec son autorité. C'est ce qu'on doit réaliser. On a cette autorité-là de marcher dans ses dons, puis dans sa puissance, dans son autorité, parce qu'il nous a donné le commandement d'y aller, puis vous allez voir des signes, des prodiges, des miracles. C'est ce qu'il nous dit dans ce verset-là. En son nom, restez dans son nom, c'est pas parce que vous êtes meilleur. Si vous avez de l'orgueil, puis vous pensez meilleur qu'un autre, ça marchera pas. Si vous avez des doutes, ça ne marchera pas. Il faut que vous soyez convaincus de votre position en Jésus, puis vous avez la foi que ces promesses-là sont écrites. Saisissez votre nouveau rôle en Jésus. C'est nos fonctions qu'on a à faire en tant qu'ambassadeur dans ce monde, de représenter le royaume, puis de marcher dans l'autorité du royaume. Quand Jésus a dit à ses disciples, que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents puis les scorpions. Puis il y a un autre passage qui nous parle que le séjour des morts ne peut pas prévaloir sur son Église. Justement, je pense que je vais vous le lire. Oui, justement, c'est le prochain verset que je vais vous lire. Jésus l'a donné, cette clé-là, de cette autorité-là à Pierre. Puis il l'a donné aux 12, aux 70, mais à Pierre, il a mentionné quelque chose, puis ça touche encore l'autorité. Puis on va aller lire Matthieu 16, 18. Tout le monde le connaît, ce passage-là. C'est un passage qu'on entend souvent. Mais il y a une clé là-dedans. On parle de clé, des fois, Pierre a prêché sur des clés. Mais il faut réaliser là, qu'il y a une clé pour nous faire comprendre notre rôle là-dedans. Jésus dit, « Moi, je te dis que tu es Pierre, puis cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Là, Pierre devait réaliser sa position en Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a utilisées, ces clés. Parce qu'on voit que c'est Pierre qui a prêché le premier après la Pentecôte, puis que là, les Juifs sont venus au salut. Après ça, il y en a qui ont été évangélisés, les Samaritains, puis il a fallu que Pierre y aille, puis qu'il aille prier pour eux autres, puis qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, puis après ça, c'était celui qui a envoyé des disciples aller chercher Pierre, un païen qui est allé chercher Pierre pour l'emmener chez Corneille. Il est allé, Corneille qui est un païen, tu vois que c'est encore Pierre qui était là, puis que le Saint-Esprit. Pierre, il a ouvert des clés sans s'en rendre compte. Il a ouvert l'accès au Saint-Esprit, aux Juifs, aux Samaritains, puis aux païens. Mais est-ce que ces clés-là étaient juste pour ce contexte-là? Non. Parce que quand Jésus a dit, je te donne les clés du royaume, puis avec ça, là, ce que tu vas lier sur la terre va être lié dans le ciel. Ce que tu délies sur la terre va être délié dans le ciel. Quelle est cette autorité que Pierre venait d'avoir? Mais on va voir qu'il y a cette même déclaration-là a été mentionné dans un autre passage. Lorsque nous exerçons la discipline dans l'Église, pour ceux qui ne savent pas, la Bible parle, c'est Jésus qui a parlé de cela, il dit, lorsque tu vois ton frère a péché, va y reprendre-le entre toi et lui seul, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins. Puis s'ils refusent de les écouter, dis-le à l'Église. Puis s'ils refusent aussi d'écouter l'Église, qu'ils soient pour toi comme un païen ou un publicain. Je vous le dis en vérité, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Cette même phrase de lier, de délier, que Jésus avait dit à Pierre, Jésus le dit aussi à ses disciples. Dans une règle de discipline dans l'Église, quand une personne vit dans le péché, c'est le devoir d'un frère qui s'en aperçoit d'aller l'avertir. Puis si elle écoute, tout est réglé. Il n'y a pas de blâme puis de jugement. C'est réglé. C'est pardonné. Si elle n'écoute pas, tu y vas avec un autre témoin pour essayer de régler l'affaire. Puis s'il n'écoute pas, tu le dis à l'Église. S'il t'écoute pas, il y a une discipline du Seigneur qui est mise, puis la personne, elle devient pour toi comme un païen ou un publicain, ça veut dire comme, elle ne fait plus partie de la fraternité, elle ne fait plus partie de la famille de Dieu. Elle vient d'être liée et déliée. Elle est liée par l'ennemi, comme on va voir dans un autre passage, puis en même temps, elle est déliée du royaume, puis ce qui a été délié sur la terre est délié dans le ciel. La haute fraternité est expliqué dans ce contexte-là et avec ce verset-là, voulant dire qu'on a les clés pour faire rentrer le monde dans le royaume en prêchant, en priant, les gens rentrent. Autant quelqu'un vit dans le péché, la discipline, c'est de dire, là, t'écoutes pas, on t'avertit, un, deux personnes, l'Église au complet, tu veux vivre dans le péché, correct, on respecte ta position, mais tu fais plus partie de l'Église. En imposant cette discipline, elle vient d'être déliée du ciel. C'est quelque chose. Oui, ils peuvent se repentir parce que il y a une voie de non-retour, mais il y a des versets qui parlent de ça pour certains cas. Mais dans l'ensemble, Dieu, il y a toujours hâte que la personne se repente. Puis on va le voir justement, la réponse aller dans le prochain verset qu'on va lire. Parce que Paul, il a eu à exercer cette autorité-là. On va voir que dans l'Église, l'autorité du Seigneur pour exercer la discipline. Paul, il l'a fait une fois, puis il explique là-dedans, pour qu'on comprend que ça se tient, tout ça. Paul explique comment appliquer ce principe d'autorité pour discipliner un frère qui est pécheur. 1 Corinthiens 5, 3, ça nous dit, là, c'est une personne là, qui était mariée avec la mère de son père. Avec la... Non, la... j'ai oublié... La femme de son père. C'est une personne qui était en train d'avoir une relation, là, il couchait avec, là, je sais pas, ça nous explique pas tout, mais il était avec la femme de son père. Puis dans la loi, il était pas question de que tu vois la nudité de ton père et ta mère, mais c'était peut-être sa deuxième femme, mais peu importe. Puis c'était une affaire inacceptable, c'est scandaleux, puis il fallait que ça soit réglé. Puis Paul lui dit, dans ce quand il voulait exercer la discipline, il dit, « Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. » C'est là qu'on voit l'autorité du nom de Jésus utilisée dans cette chose-là. « Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés dans la puissance de Dieu, dans la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. » Qu'est-ce qui s'est produit? Premièrement, dans l'exercice de l'autorité, c'est que les gens s'unissent dans une même pensée pour prier pour un point. Puis ce point-là, dans ce cas-là, c'était quelqu'un qui était rebelle, il a été averti, puis il se repentait pas. Puis là, Paul, il dit, « Vous et mon esprit est ensemblé en tant qu'Église, en tant que corps de Christ, dans l'autorité du Seigneur, au nom de Jésus-Christ, que cette personne-là soit livrée à Satan. » Elle était enfant de Dieu, était assise dans l'Église, là. Qu'elle soit livrée à Satan pour la destruction de sa chair, afin que l'esprit soit sauvé. Parce que quand il est attaqué dans sa chair par le diable, le gars va avoir du remords, ou on espère, puis qu'il se repente de son chemin, puis qu'il revienne au Seigneur. Le problème des églises, quand la discipline n'est pas exercée, c'est que le monde pêche, puis continue d'être assis dans l'église comme si rien n'était, puis il n'y a personne qui sent l'effet de la discipline. Puis ils n'ont plus la crainte de Dieu. Puis là, le péché, c'est pas grave, tout le monde pêche comme si rien n'était. Mais frères et sœurs, c'est pas biblique. La discipline est biblique. Ça, c'est 3 versets que je vous parle de cette autorité-là, puis de ce qu'on a à lier puis délier. On a accepté tout le monde, mais il faut être sévère puis strict afin que la crainte de Dieu soit là. Il faut que les gens marchent selon la parole de Dieu. Puis s'il y a des gens qui sont dans le péché, il faut les avertir, puis ça fait partie de ce que Dieu a préparé pour son Église comme étant un moyen d'autorité et de discipline pour que l'Esprit de Dieu puisse agir avec puissance.
Amen.
C'est parce que c'est pas facile de dire amen quand on parle de... Parce que nos parents, quand ils nous chicanent, là, on dit pas amen quand nos parents nous chicanent, hein. Mais en réalité, c'est pas parce que le parent est meilleur que l'enfant, mais c'est parce que c'est lui qui a l'autorité. C'est son rôle d'élever ses enfants selon ses directives, puis c'est lui qui impose la discipline. Ben, dans l'Église, Dieu établit cela, puis ça fait partie de l'autorité. Mais tout ça, j'ai expliqué ça, pas juste dans le but de punir les gens. C'est pas ça le but, là, que je vous explique ça. Le but, c'est pour comprendre comment ça marche, l'autorité. Que dans le corps de Christ, nous sommes unis dans l'Esprit de Dieu. Et quand que nous déclarons une chose dans les lieux célestes, ça s'accomplit comme qu'on l'a mentionné. Si c'est quelque chose qui est selon la volonté de Dieu, Jésus dit, deux qui s'accordent pour demander une chose, elle va y être accordée. Il faut réaliser quand il y a une unité d'esprit dans le corps de Christ, c'est là que l'Église qui est son corps qui est assis dans les lieux célestes, c'est là que l'autorité s'accomplit, que la puissance de Dieu s'accomplit. 2, 3, 4, 10, 20 qui s'accordent pour prier pour un point, puis là, on confesse ça dans le nom de Jésus avec foi. Il dit, ça va être lié sur la terre ou ça va être délié, puis ça va se faire dans les cieux. Ça va s'accomplir. C'est la parole de Dieu. Faut croire. Si on y croit pas, c'est sûr qu'on verra pas ces choses-là. Mais c'est pas juste au niveau de la discipline, là. Vous allez le voir tantôt dans d'autres points. Le Seigneur veut nous faire comprendre qu'on a réalisé que nous sommes dans cela, pas nécessairement juste seul, là, puis que moi je l'ai, puis les autres l'ont pas. Non, c'est encore plus puissant quand tout le monde se met ensemble, puis qu'ils s'unissent pour prendre autorité, pour régler des problèmes dans notre vie, là, qu'on peut se mettre ensemble sur une vision de Dieu. On croit que c'est la vision de Dieu, que c'est le plan de Dieu pour une chose. On prie ensemble, puis on prend autorité dans le nom de Jésus. On va voir les choses s'accomplir comme c'est écrit dans la parole de Dieu. Puis c'est Jésus qui rouvre les portes, puis qui les ferme. Fait que si tu rouvres, tu réclames des ouvertures de portes, Dieu va le faire. Puis si tout en autant que ça soit dans la volonté de Dieu. Parce qu'on a un ennemi qui s'oppose tout le temps à ce qu'on veut faire. Le Saint-Esprit veut nous emmener à avancer par là. L'ennemi fait de l'opposition, puis nous pouvons se lever puis prendre autorité dans le nom de Jésus pour renverser les attaques de l'ennemi. Prendre l'autorité dans le nom de Jésus n'est pas une phrase magique, mais une phrase prononcée avec l'autorité du Christ. Il faut que tu sois un enfant de Dieu, puis que tu sois en conscience de ce que tu as comme promesse, que tu sais que c'est ça, tu es convaincu, là tu prends autorité. C'est pas de la magie, ça, là. C'est ce qui est biblique de prendre autorité dans le nom de Jésus. Quelques exemples concrets, je vais finir avec ça. Il y a 4 petits exemples. Comment est-ce qu'une personne peut se sentir en autorité puis faire ce qu'il y a à faire? Pierre 2, 38. Acte 2, 38. Excusez, c'est Pierre qui parle, mais c'est Acte 2, 38. Excusez-le. Là, vous allez voir quelqu'un rempli de l'autorité du Seigneur. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un est rempli du Seigneur? Il parle-tu? Oh, ben là, j'essaie de dire... C'est pas ça, là, de marcher avec autorité, là. Dans le Seigneur, là. T'as à évangéliser, là. T'es devant une foule, il y a 3000 personnes qui viennent de s'assembler devant ton perron. Juste un petit peu avant, il était dans le jardin, puis il y a juste une femme qui a dit, « Toi ici, tu fais partie de nous. » »« Non, non, non! » Pierre, il était pas avec autorité, pas toute cette fois-là. Mais quand il était sur le perron, puis il était rempli du Saint-Esprit, la puissance de Dieu était sur lui, il était dans cette autorité-là, puis il était capable de lui dire, « Vous avez crucifié le Seigneur de gloire. » Puis là, tout le monde était touché par qu'est-ce qu'il entendait. Puis là, il dit, « Qu'est-ce qu'on va faire? » Puis il était touché par la puissance de Dieu. Le monde pleurait. « Hommes, frères, que ferons-nous? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, puis vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Il parlait avec autorité. Il était convaincu que c'était ça le message. Il marchait, il branlait pas, là. Il était sérieux. Il est en pleine connaissance de ce qu'il est en train de dire. Puis il parlait avec autorité. Qu'est-ce qui s'est produit? Le Saint-Esprit accompagnait son témoignage, a touché ces cœurs-là, puis les a emmenés. 3000 se sont convertis. 3000 personnes à baptiser demain matin, là. Gloire à Dieu. Ça, c'est puissant. Un autre moment dans Actes 3-6. On voit là-dedans, il y en a plusieurs passages dans la Bible des mêmes affaires, mais j'en ai pris une de chaque. Là, c'est une guérison qui a été proclamée avec autorité. Dans Actes 3-6, Pierre, son habitude, c'était d'aller au temple, puis il y avait une personne qui était handicapée, qui était assis devant la porte, puis lui, c'était un boiteux de naissance, puis il quêtait, il pouvait pas gagner sa vie, puis dans ce temps-là, si tu travaillais pas, tu mangeais pas. C'est la même chose, là, il quête à tous les jours pour essayer de survivre. Il n'y a pas d'assurance sociale, pas d'assurance chômage, pas rien. Pas de pension de maladie, etc. Mais Pierre passe là, il voit cette personne-là. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Y étais-tu convaincu, Pierre, de ce qu'il y avait? J'ai pas rien, moi, dans la vie. Mais ce que j'ai, je te le donne. J'ai l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qu'il est en train de dire. J'ai reçu cette autorité, puis je suis un envoyé pour faire ce job-là, de te le dire, te proclamer la délivrance, te proclamer la guérison. J'ai rien, mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi. Il proclame, puis il confesse qu'il voulait qu'il se produise, puis Dieu il a accompagné le témoignage en accomplissant le miracle. N'est-ce pas extraordinaire? C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Un autre point, un autre passage, Actes 16, 18, là, on voit que c'est une délivrance qui est proclamée avec autorité. Paul est en train de prêcher dans cette ville-là, puis il y avait une femme animée d'un esprit démoniaque, un esprit de python, un esprit de divination. Elle, elle devinait. Oh, dans ta sacoche, t'as un portefeuille, puis il y a ton numéro de série de ton assurance sociale, c'est tel numéro. Elle devinait, puis elle gagnait de l'argent, elle devinait. Ça existe. La Bible en parle qu'il y avait des personnages comme ça, mais il faut savoir que c'est un esprit de démon qui est dans cette personne-là, un esprit de python. Puis là, elle, ce qu'elle faisait, c'est que ces hommes-là, c'est des serviteurs de Dieu qui sont là pour vous annoncer la voie du salut. Elle criait ça en arrière de Paul. Paul, il voulait pas que le monde suive parce qu'elle, elle l'a annoncé. Il voulait que le monde suive parce que lui, il parle de la vérité. Il a voulu mettre un stop, il était en avant par-dessus sa tête, c'est à trois jours qu'elle cria autour de lui. Il fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, il se retourna, puis il dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Puis il sortit à l'heure même. Hey, c'est encore la puissance de Dieu, l'autorité utilisée. Il savait qu'il y avait un esprit là. Il a parlé à l'esprit que ça dit. En regardant la personne, probablement. Mais il parlait à l'esprit dans sa tête. Il parlait pas à la personne. Dans sa tête, il savait à qui ce qu'il s'adressait. Il s'adressait à l'esprit malin. Au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de sortir. Fait qu'on voit là-dedans sa conviction. On voit qu'il croit qu'est-ce qu'il a à dire. Il croit à Paul. Pierre était de même. Paul aussi était comme ça. Il croyait. Il croyait que c'était dans le nom de Jésus-Christ que ça bouge. Il utilisait le nom que l'autorité sur tout nom. Il savait que lui, il était dans cette autorité-là, qu'il avait le droit d'utiliser cette autorité-là, puis de la faire appliquer. Puis après ça, il mentionne l'ordre qu'il veut qu'il se produise. Fait que, il croit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas eu le choix, il sort. C'est la puissance de Dieu qui est à l'œuvre parce qu'il marche dans l'autorité. Il sait. Il confesse en mentionnant que ça vient dans le nom de Jésus, puis il mentionne la chose. Il faut proclamer aux captifs la délivrance. Tu es libre. C'est ça que Jésus il faisait. Il proclamait. Il parlait à un aveugle, à ses yeux, ouvre-toi, ou ses oreilles, ouvre-toi. Il donne un ordre que ça se fasse. Je le veux, sois pur. En disant sois pur, c'est que la personne a été purifiée. La puissance de Dieu est à l'œuvre quand que la personne sait qu'est-ce qu'elle est, puis elle rouvre la bouche pour donner le commandement. Le problème, souvent, quand on prie, il faut le réaliser, frères et sœurs. On essaye de convaincre Dieu de guérir. « Oh, Seigneur, guéris-la! » Tu vois pas ça? Tu vois que les gens parlent à la maladie, puis ils disent de s'en aller. Il dit, sois guéri, sois purifié, sors quand c'est un mauvais esprit. Il faut parler à la... C'est, Dieu veut déjà guérir, mais on est là dans nos prières, on cherche à essayer de convaincre Dieu. C'est pas Dieu qu'il faut convaincre, c'est nous qu'il faut être convaincus qu'on a cette autorité-là pour dire à la maladie, sors. Il faut réaliser ça, l'autorité, on l'a en Jésus-Christ. C'est les miracles, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Faut que tu y crois, puis là, t'imposes les mains, puis tu crois que c'est en train de se faire. T'as pas besoin de demander à Dieu s'il veut. C'est là qu'il faut réajuster notre foi. Dieu veut, puis Dieu veut que tu le fasses. Puis là, si t'as la foi sans douter, tu vas voir. Il dit, tu vas dire à cette montagne, déracine-toi, puis tu vas le voir s'accomplir. Si tu doutes pas dans ton cœur, mais tu crois ce que tu dis arrive, tu le verras accomplir. C'est ça la puissance d'autorité. De réaliser notre position en Jésus-Christ. Un dernier passage dans Actes 13, 9. Paul il est en train de donner une réprimande à une personne non-croyante. Puis qu'une personne qui s'opposait à aller à la prédication de l'Évangile. Puis Paul lui a parlé avec autorité. Puis il a prononcé une sentence sur cette personne-là. Puis ça s'est accompli comme c'était écrit. C'est pour ça qu'en même temps, je fais une parenthèse. Vu qu'on est dans cette autorité, dans cette possibilité de pouvoir commander aux démons de sortir et de que les guérisons se fassent, un chrétien ne doit jamais maudire. Jésus le dit ça, ne maudissez point. De notre bouche ne peut pas sortir la bénédiction et la malédiction. Si on pense qu'il ne se produit rien quand on prononce de quoi, on fait erreur. On est doublement en erreur parce que premièrement, on est en train de souhaiter du mal. Puis deuxièmement, on réalise pas la portée de nos paroles. On a deux erreurs dans cela. On doit réaliser qu'on, quand on ouvre la bouche, c'est pour proclamer les choses qui sont vraies, puis qui sont justes, puis qui sont bonnes. Puis la deuxième chose, de croire que quand on est en train de le prononcer, que ça s'accomplit. À moins qu'on soit vraiment méchant, puis qu'on soit plus sorcier que chrétien, puis qu'on veut souhaiter la malédiction aux gens. Ça, c'est pas de Dieu pantoute. Dieu veut que tout le monde soit sauvé, puis il dit pardonner à tout le monde. Fait qu'il faut réaliser que faut faire attention pour pas qu'il sorte de rien de mauvais de notre bouche, mais dire les choses qui sont, que la paix soit sur cette maison, la paix va tomber sur un enfant de Dieu, là. C'est ça que Dieu dit. Il faut confesser. Le dernier passage, ça parle d'une réprimande que Paul a faite à une personne, puis vous allez voir, ça a des effets même sur les gens qui ne sont pas chrétiens. Acte 13, 9. Alors, Saül, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit. Là, ce gars-là, là, c'était Élymas le magicien, puis il essayait de détourner de la foi le proconsul. Paul essayait de convaincre le proconsul, puis ce personnage-là était là, puis il essayait de s'interposer, puis essayait de... Là, il y en avait assez cette fois. On voit que Paul ne niaisait pas avec la POC. Il fixa les regards sur lui, puis il dit, « Homme, plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Voici, la main du Seigneur sera sur toi, puis tu vas être aveugle pour un temps. » Mais là, tard! L'obscurité des ténèbres a tombé sur cette personne-là. Puis là, il s'en allait en tatanant, puis il voyait plus clair. On voit que dans l'autorité, Paul il a mentionné comme, c'était pas une affaire permanente, là, c'était juste comme pour lui montrer pour un temps. Ça veut dire que ça a peut-être duré une couple de jours ou une semaine, je ne sais pas. Mais ce personnage-là a été frappé par la puissance de Dieu à cause que Paul l'a prononcé. Mais premièrement aussi parce que Paul y croyait, puis il savait c'est quoi son autorité. Parce que s'il savait que ça ne marcherait pas, il ne l'aurait pas fait. Mais il sait que ça marche. Que Dieu accomplit ce que lui, quand il rouvre la bouche, ça s'accomplit. Fait que il croyait, il l'a mentionné. La personne qui était non-croyante est tombée aveugle pendant un temps. On voit là-dedans la puissance de Dieu. L'autorité que Dieu a donnée à son serviteur, que la personne puisse faire les choses. Frères et sœurs, là, c'est pas des farces que je vous dis là. Il faut rentrer dans ce que Dieu nous mentionne dans sa parole. Il faut y croire. Je sais qu'on va sortir d'ici, le diable va essayer de nous faire oublier ce qu'on vient d'apprendre. Mais il faut pas. Il faut retourner, sur le site internet, publicationévangélique.com, pour aller réentendre ces messages-là. Ils sont tous là encore, pour qu'on puisse le comprendre, puis le vivre, puis on va expérimenter des choses encore beaucoup plus grandes. C'est ça que Jésus a dit. Jésus prépara le monde même à des choses plus grandes en le disant. Vous allez voir encore des choses plus grandes. Comme le Père ressuscite les morts, le même le Fils aussi va en ressusciter. Après ça, Jésus a commencé à ressusciter des personnes. Mais il voulait stimuler la foi, les attentes, de qu'on s'attende à ce qu'il se passe des choses plus grandes. Puis là, les gens qui saisissent par la foi l'expérimentent. Comme la femme, elle dit, « Si je peux seulement toucher son vêtement, je vais être guéri. » Qu'est-ce qui s'est produit? Elle s'en foutait du reste. Elle était sûre par la foi dans son cœur qu'elle avait juste à toucher le vêtement de Jésus, puis elle était pour être guérie. Elle y a touché, puis elle a été guérie. Qu'il te soit fait selon ta foi. Amen.
Amen.
Prions. Père Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est là. Tous ces versets pour nous amener à réaliser notre nouvelle position en Jésus-Christ. À cause que nous sommes enfants de Dieu, tu nous as donné ton autorité, Seigneur. Donne-nous de réaliser pleinement tout ce qui est là, Seigneur, qu'on puisse le saisir par la foi, puis qu'on puisse expérimenter plein de nouvelles choses qui vont s'ouvrir, Seigneur, à cause que ta parole est vraie, puis que tu n'es pas un menteur, Seigneur. Puis on va voir les choses s'accomplir comme tu l'as promis. Puis merci, Seigneur. Augmente notre foi, Seigneur. Donne-nous le don de la foi comme un don spirituel, pour qu'on puisse voir ta puissance à l'œuvre. Je me sens entre tes mains, Seigneur. Je te prie dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Croyez-vous que ce que je viens de prier, que Dieu l'a entendu?
Amen.
Croyez-vous que ça va s'accomplir? Ben, attendons-nous à ce que ça se fasse, parce que ça va se faire. Amen.
Amen.
Gloire à Dieu.